Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes, en quête de sagesse ou tout simplement inspirés, nous prêtent leurs lunettes pour voir le monde tel qu'ils le contemplent. Vous êtes dans l'émission Envie de sagesse. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Envie de sagesse. Je suis aujourd'hui en ligne, puisque les circonstances, hélas, nous obligent à recevoir nos invités en ligne. Je suis aujourd'hui en ligne avec Gilles Debay, qui est un des nouveaux prêtres de la paroisse d'Agen. Donc je devrais plutôt dire Don Gilles Debay. Et votre particularité, c'est que vous vivez et vous formez une communauté avec les autres prêtres, et c'est la communauté Saint-Martin. Bonjour Don Gilles.
Bonjour.
Alors pourquoi ce don ?
Eh bien, parce que notre communauté a été fondée en Italie et que les Italiens ont l'habitude d'appeler leur prêtre de cette manière, don plus le prénom.
Ah oui.
Un prêtre qui n'est pas italien, mais qu'on connaît bien, c'est Don Camillo, par exemple.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
qui représente une figure de prêtre italien, où il y a aussi Don Bosco, Don Jean Bosco.
Ah oui, voilà, petit clin d'œil.
C'est une habitude qui nous est restée, parce qu'on a passé quand même toutes les premières années de notre existence en Italie, à Gênes, et cette habitude nous est restée, voilà.
D'accord. Alors, comment s'est passée cette rentrée, cette nouvelle affectation à Agen, puisque aucun de vous n'était à Agen encore l'année dernière. Comment ça s'est passé de manière spontanée, et puis aussi par rapport à ces circonstances si particulières entre l'épidémie, le confinement, les restrictions et plus récemment les attentats.
Eh bien, en ce qui concerne l'épidémie, effectivement, c'est pas très simple. Alors, je suis pas physionomiste déjà personnellement, et alors quand les gens ont le masque en plus, voyez, ça facilite pas les repérages du début. Mais bon, j'en prends mon parti. Mes confrères sont plus adroits que moi, alors ça se passe bien. Le contexte donc de l'épidémie au début a pas trop joué, hein, parce que on était encore fin août début septembre, ça se passait encore à peu près normalement, mis à part le masque dans les lieux publics et dans la rue. Sinon, les événements plus récents, c'est dramatique, hein, mais c'est dramatique pour tout le monde, pour les Français, pour l'Église aussi plus particulièrement avec l'attentat de Nice. Mais que voulez-vous? Je ne dis pas qu'il faut en prendre son parti, loin de là, mais il faut assumer ce genre d'événement. Et dimanche de la Toussaint, nous étions au grand cimetière de Gaillard, avec un peloton du 3e RPIMA de Carcassonne, donc des militaires qui étaient là pour protéger les gens qui étaient au cimetière. C'est assez étonnant, et en même temps, il y a eu des contacts très sympathiques avec eux.
D'accord. Et oui, parce que, en fait, là maintenant, est-ce que ces mesures-là vont perdurer, ou est-ce que c'était pour les fêtes de la Toussaint seulement ?
Alors, ça, je ne saurais pas vous dire, parce que ça dépend, d'abord parce que ça ne va pas perdurer dans la mesure où, pour l'instant, il n'y a pas possibilité, à cause de la pandémie, de messe. La messe de la Toussaint, les célébrations de la Toussaint étaient les dernières. Je ne sais pas quand est-ce que nous pourrons reprendre. C'est comme lors du premier confinement.
Oui.
D'ailleurs, donc, les mesures de protection, évidemment, ne s'imposeront plus de la même manière.
Alors, peut-être aussi pourriez-vous nous dire un petit peu que fait un prêtre pendant le confinement ? On pourrait se poser la question. Et puis, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour les personnes d'Agen qui venaient, qui se rendaient à l'église le dimanche ?
Oui. Vous savez, c'est vrai qu'un prêtre a, un prêtre, la vie d'un prêtre a deux dimensions. Il y a une vie, il y a presque, je dirais même presque trois dimensions. Allez, une vie de prière, hein, que justement nous essayons de maintenir, une vie de prière, la prière personnelle et communautaire des prêtres qui vivent en communauté. Donc ça, on le maintient sans problème. Effectivement, on est comme une famille, hein, on est tout le temps, on partage les repas, mais on partage aussi ces temps de prière. Il y a une dimension pastorale extérieure, eh bien, qui évidemment n'est plus du tout la même, parce que là, on ne peut plus aller visiter les gens chez eux. Il n'y a plus de célébration avec du public. Voilà, donc ça, c'est une dimension essentielle de notre vie de prêtre, malheureusement, qui est... Mais par contre, surtout avec mes confrères plus jeunes que moi, et qui savent très bien se débrouiller avec tous les moyens modernes de communication, il y a une petite homélie tous les jours qui est mise en ligne sur le compte YouTube de la paroisse de Sainte-Foy d'Agen. Il y aura aussi la retransmission le dimanche d'une messe à 10h30 à la cathédrale, une messe où il n'y aura personne, hein, mais où il n'y aura que les prêtres que nous sommes pour concélébrer, mais qui sera retransmise pour ceux qui voudraient s'y associer. Voilà. Et puis pendant ce temps beaucoup plus confiné chez nous, l'ouvrage ne manque pas, hein, de préparation de l'avenir, de préparation des homélies, et puis les choses qu'on n'a peut-être pas le temps de faire d'habitude ne manquent pas non plus. Voilà, je ne sais pas s'il faut que je vous en donne plus, mais le temps est bien occupé.
Vous disiez que les autres étaient plus jeunes. Alors déjà, on pourrait vous demander combien vous êtes dans cette communauté?
Alors nous sommes... normalement, nous sommes quatre, donc il y a trois prêtres, un diacre, et puis il y a en ce moment un prêtre en supplément qui est là parce qu'il est affecté à une communauté de chez nous, mais qui se trouve à Cuba. Et pour des raisons de filtrage sanitaire de la part de Cuba, et pour l'instant il est en attente, il ne peut pas partir, il n'a pas l'autorisation de partir pour Cuba, et il attend de pouvoir le faire. Donc pendant ce temps-là, il nous donne un coup de main.
Voilà. D'accord. Et donc vous êtes un petit peu comme le vieux sage de cette communauté, si j'ai bien compris.
C'est ça, tout à fait. Oui, j'ai 72 ans, je suis l'aîné en âge de toute la communauté Saint-Martin, j'ai ce privilège, vous voyez.
Et est-ce que cela vous donne un rôle, parce que vous avez un rôle particulier?
J'ai un rôle de conseil, disons, oui, un rôle de vieux sage, oui, de sagesse, je ne suis plus en responsabilité, c'est Don Étienne qui est le curé de la paroisse et le responsable de notre équipe. Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai demandé à ne plus le faire, parce que j'ai été un des premiers, même le premier curé de la communauté Saint-Martin en France, donc c'est vrai. Mais ça remonte à 1984, donc voilà, j'ai fait 20 ans. 20 ans comme curé, et puis ensuite j'ai demandé à passer la main et à être en second rôle.
Alors justement, à propos de cette communauté Saint-Martin, donc elle est fortement liée à votre parcours, puisque je voulais qu'on aborde votre parcours de vie. Depuis quand, alors vous faites partie, vous disiez, des membres fondateurs. Comment cela s'est traduit concrètement? Vous viviez en Italie ou vous êtes parti en Italie pour vous former?
On est allé en Italie pour se former. Je dis nous sommes allés en Italie, nous étions plusieurs, hein, donc qui étions étudiants ou bien jeunes professionnels à Paris. Et c'est à Paris que j'ai fait la connaissance de ce prêtre qui est devenu le fondateur de la communauté Saint-Martin, qui s'appelait l'abbé Jean-François Guérin. qui avait un ministère de prêtres sur Paris et qui a eu une grosse influence sur un groupe d'étudiants parisiens dont que j'ai pu rencontrer quand j'étais étudiant grâce à d'autres étudiants chrétiens qui m'ont amené à cette communauté de d'étudiants. Disons, c'était pas la communauté Saint-Martin, mais c'était déjà un peu une communauté qui se constituait autour de ce prêtre. Et une communauté qui a été très, très prolifique au plan chrétien, puisqu'il y a eu beaucoup de moines et de moniales qui sont sortis de cette communauté parisienne. Et puis ensuite, des jeunes qui ont eu un désir plus de vie sacerdotale active, dont j'ai fait partie. Et là, c'était beaucoup plus compliqué pour trouver une formation à l'époque. On était dans les années 70, hein, donc l'après 68, les remous de l'après-concile, en France, c'était très agité. Et c'est vrai qu'on a trouvé un refuge en Italie, un refuge en dehors des polémiques de l'époque en France, en dehors on a été formé, on a appris l'italien, on a été formé au grand séminaire de Gênes, qui est une section de l'université de Milan, l'université catholique de Milan.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça que on est parti en Italie parce qu'on est rentré en contact avec l'archevêque de Gênes de l'époque et qui nous a accueillis dans son diocèse.
Vous étiez tout jeune, vous aviez quel âge ?
Moi, j'avais 28 ans. Et j'étais déjà l'aîné des jeunes. Et puis, il y avait quatre autres candidats. Nous étions quatre séminaristes. On n'était pas encore séminaristes. On était étudiants en philosophie et théologie. À Gênes. Et puis, peu à peu, le cardinal Siri, l'archevêque de Gênes, nous a vu grandir et nous a donné une existence canonique dans son diocèse. On a commencé à exister en tant que communauté Saint-Martin au bout de quelques années.
D'accord.
Et voilà, et du coup, avec un autre jeune de cette première... De ces premières années, j'ai été un des premiers ordonnés prêtres de la communauté Saint-Martin en 1980. Ça va faire 40 ans bientôt, vous voyez. Pour donner des repères, hein, 40 ans depuis les premières ordinations.
Alors, on va faire une première pause musicale et on va se retrouver juste après.
Thank you.
Alors, nous sommes toujours dans l'émission En vie de sagesse. Je suis en compagnie de Gilles Debay, qui nous parle de son parcours de prêtre fondateur de la communauté Saint-Martin. Et on vient d'écouter Barbara Hendricks, L'Ave Maria, que vous avez choisi, Gilles.
Oui, merci beaucoup.
Très beau morceau. Alors, j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de votre. On a commencé un peu à parler de votre parcours de vie, que vous êtes parti à 28 ans en Italie, mais vous faisiez un métier avant. Alors, comment ça s'est passé ce changement de vie
Oui.
entre le moment où vous étiez dans la vie active et le moment où vous avez décidé de vous consacrer et d'être
Oui.
ordonné prêtre?
Oui. Oui, en fait, j'ai connu l'abbé Jean-François Guérin, donc ce prêtre qui s'occupait des étudiants à Paris. Là, je l'ai connu alors que j'étais étudiant en informatique à l'université de Paris 6, à Paris. Et je l'ai rencontré, j'ai beaucoup apprécié la parole de cet homme, et puis je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça m'a fait évoluer dans mon parcours. Ce n'est que alors que j'étais déjà dans la vie active, j'étais ingénieur en informatique pour une compagnie d'assurance qui avait son siège à Paris.
Ce qui est avant-gardiste quand même pour l'époque d'être ingénieur en informatique.
Oui, c'est vrai, ingénieur en informatique des années 70, ça veut dire des ordinateurs qui tenaient tout le presbytère d'Agen, hein, voyez,
Oui,
enfin,
oui.
beaucoup plus de place qu'aujourd'hui.
Oui.
Mais c'était déjà une. Oui, c'était ça a été, c'était mon. J'aimais beaucoup, je m'épanouissais dans ce domaine-là, mais en même temps, il y avait cet appel qui s'était éveillé en moi, très, très profond, et qui a fini par prendre le dessus. Et donc, je suis resté 3 ans, j'ai travaillé pendant 3 ans comme ingénieur en informatique, de 1973 à 1976. Et en 1976, la proposition de l'archevêque de Gênes est arrivée, et là, les choses étaient mûres. Je suis parti aussi avec ce groupe. J'ai démissionné de mon travail, et je suis parti en Italie. Donc voilà, c'était en fait une maturation un peu longue, hein. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Je crois qu'il y avait quelque chose de très profond qui était en moi depuis longtemps, mais dont je n'avais pas conscience.
Oui, mais donc ça sommeillait quelque part et ça s'est
Voilà.
réveillé à un moment donné. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'un appel est associé à un manque? Ou est-ce que, oui, est-ce qu'il y a comme quelque part un vase communicant, quoi, un vide quelque part et
Je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Non, j'étais très. Non, s'il y avait un manque, c'était plus à l'extérieur. En fait, un jour, l'abbé Guérin me dit, est-ce que tu t'es jamais posé la question de ta vocation? Et ça a été la question à laquelle j'ai dû répondre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, la question, je ne me l'étais pas posée, mais à partir du moment où elle m'a été posée, il a fallu que je donne une réponse.
Ah oui.
Et du coup, ça a été une longue réflexion. On était dans des années où beaucoup de prêtres avaient quitté le sacerdoce. On était dans des années où les séminaristes commençaient à se raréfier, et où je me disais, ben, c'est vrai que l'Église a besoin de jeunes qui se donnent. Et voilà, c'était ça. Alors, c'est un peu un raccourci parce que ça a mûri aussi au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte, à Jérusalem notamment. Ça a mûri avec toutes les activités de formation que nous proposait ce prêtre. C'est
Oui.
tout un ensemble, hein, voilà, je suis pas parti comme ça, ni sur un coup de tête, ni même si c'était difficile hein, de quitter une profession et
une profession bien rémunérée, j'imagine.
Oui, c'est vrai. J'ai un confrère qui avait fait les mêmes études que moi, que j'ai retrouvé il y a quelques années et qui a terminé à la direction d'Air Liquide, vous voyez, par exemple. Donc, il y avait un profil de carrière qui était quand même pas mal à l'époque.
Ah oui. Donc, c'est curieux ce parallèle entre donc, votre ancien collègue et qui a eu son parcours de vie et qui
oui,
aujourd'hui,
oui.
Vous disiez, à la tête de quelle entreprise?
Il était à la direction d'Air Liquide.
À
Alors, je
direction
ne sais pas
d'Air.
Si Air Liquide existe encore, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une compagnie assez,
Ah oui.
assez importante.
Et donc vous, en même temps, une autre sorte de direction, on peut dire.
Oui, et grâce notamment à ce prêtre, lorsque je l'ai retrouvé, je lui ai dit, tu sais, c'est de ta faute si j'en suis là, parce que on discutait beaucoup, on était très, très proches, et il n'était pas du tout croyant, lui. Mais le jour où je lui ai fait part de mes hésitations au moment de faire le saut, c'est lui qui m'a dit, mais tu n'as pas le droit d'hésiter, tu as l'occasion de faire quelque chose de ta vie, de servir ton idéal, vas-y. Et ça a été décisif pour moi. Voilà, c'était important.
Ah ben c'est un beau témoignage. Je trouve encore plus aujourd'hui dans un contexte où on parle de tolérance et de laïcité, de voir
Oui.
que quelqu'un pas croyant, qui ne partage pas du tout la même foi et la même religion, vous encourage à
Oui.
votre vocation. C'est fabuleux.
Oui.
C'est beau.
Oui, c'est pour ça que c'était important. Au même moment, exactement dans ces mêmes journées-là, mon supérieur, enfin pas mon celui qui est devenu le fondateur, ce prêtre, lui, voyait bien mes hésitations et ne m'en parlait absolument pas. Il ne voulait pas m'influencer à ce moment-là. C'était trop un choix tellement radical que...
Oui.
Et c'est providentiellement que ce garçon m'a bousculé, quoi, parce que je me suis dit, oui, lui ne cherche pas à m'influencer.
C'est
quoi,
sûr.
voilà.
Ah oui, d'autant plus. Oui. Ah oui. Ah ben oui, c'est une belle anecdote. Et alors,
Voilà.
depuis 40 ans de ce parcours en tant que prêtre, j'imagine qu'il n'y a pas. C'est pas un long fleuve tranquille. J'imagine qu'il y a des remous, des difficultés. Est-ce que vous avez eu traversé quelques difficultés? Alors, quelles en sont les difficultés et puis quels en sont les bonheurs, si on peut dire?
Oui. Les bonheurs,
Ou
je
la
les
joie.
ai connus un peu partout. J'en suis à ma 8e paroisse, là, en arrivant à Agen. Partout, j'ai vraiment été heureux d'arriver. De ma première paroisse, un prêtre ami qui est décédé, hein, qui était beaucoup plus âgé que moi, m'avait dit, j'étais allé l'aider un été, et il savait que j'étais nommé dans ma première paroisse, et il m'avait dit, pour m'aider, quoi, parce que j'étais allé le voir pour lui demander conseil, il m'a dit, tu sais, tu vas avoir des gens à aimer. Et ça a été une parole que j'ai toujours gardée inscrite dans mon cœur de prêtre. Avoir des gens à aimer. Ça a été, là aussi, voilà, une autre personne qui m'a... Et c'est une parole.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai dû quitter, c'est toujours un déchirement. Voilà, ça c'est vrai. Partir... parce que lorsqu'on a aimé des gens, eh bien, il faut s'éloigner. Mais on sait que là où on arrive, il y a aussi des gens à aimer, mais aimer au sens fort, hein, au sens d'un amour de bienveillance. Hein.
Oui.
C'est pas
bien
une question
sûr.
D'affectivité, mais c'est quelque chose de fort. Hein.
D'aimer l'autre pour ce qu'il est gratuitement,
voilà,
sans attendre un retour.
Voilà, ce qui suppose de faire connaissance, ce qui suppose tout un tas de choses, ce qui demande du temps, mais qui est quand même une belle réalité. Et ça, depuis la paroisse du Haut-Var, ma première petite paroisse dans les collines du Haut-Var jusqu'à Agen, ça a été toujours une belle réalité. Et... Après, les difficultés, ben oui, il y en a eu, bien sûr, des controverses,
des doutes aussi peut-être, non?
Des doutes, j'ai pas vraiment eu de doutes, ni sur ma vocation, ni je pense que je suis parti, j'avais déjà une certaine maturité et je vous ai dit que le doute, les hésitations, c'était comme je vous le disais tout à l'heure, c'était au moment de partir.
Ah oui.
Et après, ça a été fini. Non, j'ai pas connu le doute. Par contre, oui, des contradictions,
des illusions. Pas,
pardon.
Des désillusions, peut-être.
Des désillusions, oui. Oui, c'est possible. Oui, on peut le dire. Des désillusions, parce que quand on est quand on a 30 ans, on s'imagine qu'on va convertir le monde.
Oui.
Et puis après, on s'aperçoit bien qu'il faut semer. L'un sème, dit l'Évangile, l'autre récolte. Hein. Donc, on ne voit pas forcément le fruit des semailles. Hein. Mais ça, ça fait partie du métier. Par contre, il faut quand même que je temporise parce que j'ai vu aussi des choses magnifiques. J'ai pu assister à des... J'ai vécu avec des familles des moments d'une force extraordinaire, des moments de conversion. Une famille avec laquelle je suis resté très proche, très ami, malgré la distance, c'est des choses, des trésors que le Seigneur m'a donné au cours de ma vie. Hein. Donc, vous voyez, il y a de tout. Le trésor de l'amitié, vous voyez, de pouvoir... alors, on ne peut pas garder des amitiés partout, parce que quand on part, il faut partir. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. C'est presque une nécessité vitale d'avoir des amis. Même si on a des frères en communauté, vous voyez, c'est une autre dimension encore. C'est
oui.
Un complément. C'est complémentaire, mais c'est un...
Et, voilà. Et vos frères de communauté, comme vous dites, en fait, oui. Ils changent à chaque fois parce que là, vous oui. venez de découvrir ceux qui sont avec vous.
Oui,
si
tout
j'ai
à
bien
fait.
Compris.
On apprend à se connaître.
Et vous apprenez à vous connaître et à vivre ensemble.
On apprend à se connaître et à vivre ensemble, même si ce vivre ensemble, il est marqué déjà par des habitudes communautaires, il y a un coutumier pour de vie commune, etc. Donc, on sait comment les journées vont s'organiser, comment... Bon, tout ça, c'est... Y a, mais en même temps, ben, chacun a sa personnalité. C'est toujours des belles surprises. Hein. Une des difficultés, une des épreuves que j'ai pu traverser, c'est de voir un de mes jeunes frères disparaître. Enfin, disparaître, je veux dire par là, qui est parti, qui n'en pouvait plus, qui a abandonné le sacerdoce, etc. Donc ça a été... Bon, ça fait partie aussi des épreuves que j'ai pu traverser, mais ça existe. Hein. C'est pas fréquent, loin de là,
mais oui.
C'est aussi une possibilité. Heureusement, hein. Chacun reste libre.
Hein. Oui. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous auriez un message, un petit mot de la fin à faire passer aux auditeurs de Radio Bulle?
Eh bien, moi, je leur dirais que dans ces temps difficiles, à la fois de confinement et puis des drames provoqués par le terrorisme, eh bien, je crois que pour moi, il faut garder vraiment confiance et espérance. Nous avons tous entre les mains non seulement notre avenir personnel, mais celui de notre communauté de vie qui s'appelle, alors je ne sais pas, on va dire la France ou l'Europe ou plus, si vous voulez, mais on a quelque chose à y faire, à y donner et à recevoir aussi.
Merci Gilles Debé.
Je vous en prie, merci à vous. Et beaucoup de choses à tous vos auditeurs, à tous nos auditeurs.
Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes, en quête de sagesse, ou tout simplement inspirés, nous prêtent leurs lunettes pour voir le monde tel qu'ils le contemplent. Vous êtes dans l'émission « Envie de sagesse ». ».